Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'année qui démarre, qu'on souhaite évidemment belle et heureuse à tous, et qui va être notamment marquée sur les questions militaires par ce qu'on appelle la PFUE, la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, j'ai le plaisir de recevoir deux spécialistes des questions de défense, notamment dans le cadre de l'Union Européenne. Alors tout d'abord Tara Varma, directrice France de l'ICFR, European Council on Foreign Relations, qu'on pourrait traduire grossièrement par Conseil européen sur les relations internationales, qui est l'un des principaux think tanks sur les questions touchant à l'Union européenne, notamment dans les domaines militaires et stratégiques. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Et ensuite Olivier Rémy Bell, dont les auditeurs se souviendront peut-être que vous étiez venu nous parler l'an dernier de la coopération militaire franco-américaine, quand vous étiez à l'époque chercheur à l'Atlantic Council à Washington. Mais je vais rappeler que vous êtes aussi et surtout fonctionnaire français à la DGRIS, qui est l'un des départements, l'une des directions du ministère des Armées, dont le collimateur émane aussi d'ailleurs, et désormais conseiller spécial pour la PFUE, la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le collimateur.
Bonjour, et c'est un plaisir de revenir avec une nouvelle casquette cette fois-ci.
Alors, je viens de dire que cette présidence française du Conseil de l'Union Européenne allait rythmer les questions militaires et stratégiques, en tout cas en France, pour l'année 2022. Alors évidemment, on ne peut pas le savoir avec certitude, mais clairement, c'est l'intention qui est affichée, en tout cas, notamment par un certain nombre de discours de fin d'année du président de la République.
Le deuxième élément clé d'une Europe plus souveraine, c'est évidemment d'avancer sur notre politique de défense. Vous le savez, là aussi, depuis 2017, nous avons beaucoup porté l'ambition d'une défense européenne, avec des avancées considérables. Un fonds européen de défense, l'initiative européenne d'intervention, des coopérations, là encore une fois, structurées, et plusieurs programmes communs franco-allemands, ensuite ouverts à d'autres États membres en matière d'armement, qu'il s'agisse d'armements qui sont dédiés à notre armée de l'air ou notre armée de terre. Sur le fondement des initiatives prises depuis 4 ans, il nous faut aujourd'hui entrer dans une phase plus opérationnelle, définir pour nous, Européens, nos intérêts communs et une stratégie partagée dans un monde de menaces et de risques.
Mais aussi de la ministre des Armées, et bon, c'est pas non plus extrêmement étonnant, parce qu'on sait que la France est très traditionnellement en pointe, en tout cas d'un certain point de vue, en tout cas très demandeuse d'avancer dans la construction d'une Europe de la défense, depuis au moins une dizaine d'années, et certainement depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron, et que, bon, c'est traditionnellement plutôt les autres partenaires européens qui ont plus de réticence ou d'état d'âme, qui ne marchent pas toujours exactement à la vitesse que Paris souhaiterait. Et donc, il paraît assez logique que la France profite de sa position au sein de l'Union européenne pendant cette année, en tout cas ce début d'année 2022, pour essayer de faire avancer les choses de son point de vue. Mais justement, il faut peut-être commencer par là pour mesurer ce à quoi on peut s'attendre pour cette année et préciser exactement ce que c'est que cette PFUE et quels leviers elle donne et lesquels elle ne donne pas. Donc peut-être commençons par là. Qu'est-ce que c'est exactement que la présidence de l'Union européenne, ou plutôt la présidence du Conseil de l'Union européenne, et qu'est-ce que ça donne exactement comme pouvoir et comme marge de manœuvre? Je ne sais pas qui veut commencer. Olivier Rémy Bell ?
Oui, alors donc, vous avez raison de le dire, c'est bien la présidence française du Conseil de l'Union européenne, puisque la Commission reste, elle, présidée par Ursula von der Leyen, et le Conseil européen, qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement, par Charles Michel. Ce qui veut dire que la France va présider le Conseil de l'Union européenne, qui est un des deux organes législatifs de l'Union européenne, d'une part, et d'autre part, ça va lui donner un rôle d'impulsion, ça va lui donner une capacité à mettre des sujets sur le devant de l'agenda, à animer les discussions et à mettre un coup de projecteur sur ce qu'elle souhaite mettre en avant. Par exemple, dans les priorités de la France pour la PFUE, on va retrouver là, cette question des espaces stratégiques contestés, le cyberespace, l'espace exo-atmosphérique, la haute mer. Et ça va s'incarner, par exemple, dans deux événements phares, le forum sur la sûreté maritime à Brest, d'une part, ou l'exercice Astérix, qui aura une dimension européenne cette année à Toulouse, et qui vont permettre, à travers des manifestations concrètes, d'incarner les priorités politiques qu'on souhaite porter.
Et peut-être pour ajouter, le gouvernement qui préside le Conseil de l'Union européenne, donc ce sont des présidences tournantes tous les 6 mois, il se voit attribuer 4 fonctions principales, organiser et présider les réunions des ministres des 27 États membres et celles des groupes de travail de leurs compétences. Deuxièmement, piloter les travaux législatifs du Conseil et parvenir à des compromis, parfois un peu difficile pour nous Français. Troisièmement, représenter le Conseil dans le schéma institutionnel européen. Et enfin, et ça c'est un peu plus dans nos cordes, gérer l'actualité internationale en coordination avec le haut représentant pour les affaires extérieures, Josep Borrell. Donc voilà, sachant que nous, on a défini 3 priorités, enfin un slogan pour cette présidence française du Conseil de l'Union européenne qui est relance, puissance, appartenance.
Mais alors, juste si on peut essayer d'appliquer ça aux questions militaires et stratégiques, et disons si on peut se fonder un peu sur le passé pour anticiper l'avenir. C'est-à-dire, on peut dire que les dernières donc, présidences du Conseil de l'Union européenne, c'était donc l'Allemagne de juillet à décembre 2020, puis le Portugal et la Slovénie en 2021. Donc, qu'est-ce qui a été fait, ou pas fait, justement d'ailleurs peut-être, du point de vue de la défense, de la stratégie, des questions militaires pendant ces présidences-là, Tara Varma?
Alors, l'Allemagne, elle s'est retrouvée effectivement le 1er juillet 2020 à devoir prendre sa présidence et elle en a quand même changé sérieusement le cours puisqu'elle s'est retrouvée à gérer l'après-premier confinement, j'allais dire l'après-Covid, je suis un peu optimiste.
Pas encore.
Mais en tout cas, elle s'est retrouvée à gérer cette situation assez différente. Elle s'est retrouvée quand même à gérer une situation dont elle savait qu'elle avait à la gérer, qui était les négociations du cadre pluriannuel financier. Et donc qui en fait représente le budget que l'Union européenne négocie pour la période 2021-2027. Dans ce budget, il a été question évidemment de défense. Je dois préciser d'ailleurs que l'Allemagne a changé le slogan de sa présidence pour solidarité et souveraineté européenne. Ce n'était pas ce qui était initialement prévu, mais le Covid, la nécessité de développer une souveraineté stratégique sur un certain nombre de domaines, dont le domaine de la santé qui ne fait pas partie des compétences initiales de l'UE, a amené quand même l'Allemagne à opérer un sérieux changement de braquet, notamment parce que l'Allemagne s'est finalement prononcée pour de la solidarité financière européenne, alors qu'elle était plutôt contre au début de la crise du Covid en mars 2020.
Mais donc, d'un point de vue, est-ce qu'ils ont fait des choses d'un point de vue militaire, ou on pourra entrer dans le détail ensuite des différents...
Le Fonds européen de défense, alors, il a été décidé à ce moment-là. Alors... En France et dans un certain nombre d'autres pays européens où on était très ambitieux pour les questions de défense, on a été assez déçus, puisque le budget initial qui était prévu, c'était 15 milliards d'euros. Il se retrouve aujourd'hui à être plutôt autour de 7, donc on l'a divisé par 2. Malgré tout, c'est quand même une nouveauté, c'est une innovation. Ça n'existait pas, ce fonds-là. Donc les Européens décident de dédier toute une partie de leur budget aux questions de défense. Là aussi, il y a des tabous qui se lèvent petit à petit. En fait, d'une certaine manière, le Covid a permis à ces tabous de se lever. On y reviendra certainement sur la taxonomie, l'idée d'autonomie stratégique, de souveraineté stratégique, de défense européenne, d'Europe de la défense. Voilà, on continue d'avoir des débats là-dessus. Moi, je trouve que c'est plutôt positif qu'on ait ces débats-là. Malgré tout, il y a quand même une avancée, des avancées européennes qu'on voit depuis quelques mois, qu'on n'avait pas vues depuis quelques temps.
Mais donc ça a été impulsé par la présidence allemande. Et quoi, ça s'est poursuivi ou c'est resté un peu... Enfin, si on s'est poursuivi sur sa lancée... On dit, bon, ça va, on va commencer, on va impulser des choses. C'est ce que disait le discours du président, ce que disait la ministre des Armées devant l'Assemblée nationale notamment. Est-ce que c'est l'idée que ça va être une grosse rupture par rapport à une sorte d'hibernation de ces derniers mois, ou est-ce que tout le monde a fini plus ou moins par s'emparer du sujet et que ça va être dans la continuité? Olivier Rémy Bell.
Ce qu'il faut voir, c'est replacer cette présidence française de l'Union européenne dans un temps plus long. On constate depuis en gros 2016-2017 qu'on a on est entré un peu dans une nouvelle phase en matière d'Europe de la défense. On a connu différentes phases d'approfondissement à la fin des années 90, début des années 2000, avec la déclaration de Saint-Malo, avec l'objectif d'Helsinki, et ainsi de suite. On a eu une autre phase avec la mise en place du service européen d'action extérieure, et en fait 2016-2017 on entre dans un nouveau moment de basculement avec le lancement de la coopération structurée permanente, le Fonds européen de défense dont on vient de parler, qui est vraiment une rupture idéologique, puisque pour la première fois, de l'argent de l'Union européenne va venir financer l'industrie de défense. C'est un pas qui était impensable, on a une dizaine d'années. La facilité européenne
mais
de paix...
Pour autant, on y reviendra, mais les trucs dont vous parliez, Saint-Malo, Helsinki, alors Helsinki, on en reparlera, mais c'était des objectifs incroyables. C'était déjà des objectifs de faire des espèces d'armées européennes, enfin en tout cas de forces européennes d'intervention. Dans une certaine mesure, on se doutait bien qu'il allait falloir... Enfin bon, ce que je veux dire, c'est que c'est pas nouveau, en tout cas, que d'un point de vue déclaratoire... on ambitionne des choses potentiellement très ambitieuses, quoi.
Oui, mais ce qui est justement intéressant, c'est que dans cette phase actuelle de relance de l'Europe de la défense, on est parti du concret, on est parti de projets capacitaires, on est parti d'un instrument, la Facilité européenne de paix, qui va permettre de venir équiper les forces des pays partenaires. Et tout ça, c'est aussi inscrit dans un mouvement d'ensemble avec des efforts qui sont conduits aussi hors des cadres de l'Union européenne, comme la Task Force Takuba au Sahel, qui est dans un cadre ad hoc. On est vraiment dans un mouvement d'ensemble d'approfondissement de relance de l'Europe de la défense. Et la présidence française de l'Union européenne s'inscrit dans cette trajectoire. Pour revenir sur la présidence allemande, il y a aussi un autre élément important, c'est qu'on a lancé sous présidence allemande les travaux de la boussole stratégique. Alors on reparlera sans doute de la boussole stratégique plus
tard.
Non mais
c'est le bon moment, allons-y, parce que la boussole stratégique c'est un truc dont on parle beaucoup depuis quelques jours, quelques semaines. Je dois dire que même pour moi c'est pas hyper clair de exactement ce que ça recouvre, non mais quel poids ça a ou ça n'a pas. Donc expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que cette boussole stratégique, d'où ça vient et qu'est-ce que ça va faire exactement ?
La boussole stratégique, donc, au départ, a été la boussole stratégique au départ a été lancée donc, sous présidence allemande. L'idée, c'est de faire une sorte de livre blanc de la défense européenne, si on veut, ou de feuille de route de la défense européenne. C'est-à-dire qu'on a eu depuis 2016-2017 cette phase où on a lancé toute une série d'initiatives un peu concrètes, de choses qui ont commencé à bouger, des tabous qui sont tombés. Et aujourd'hui, c'est peut-être le moment de rassembler tout ça et de passer dans la phase d'après avec une trajectoire. En fait, la boussole stratégique, si on veut, c'est pas, elle va aboutir sous présidence, elle devrait aboutir sous présidence française, mais c'est pas un point de fin, c'est un point de début.
Mais donc c'est quoi? C'est un texte? C'est un texte? Quoi, il est contraignant? Il n'est pas contraignant? Enfin, qu'est-ce qui va sortir et quel poids ça va avoir ou ne pas avoir? Tara Varma?
C'est un document important. C'est le troisième document de sécurité seulement de l'Union européenne. Les deux précédents, ils datent un peu, à plusieurs égards. Le premier, il date de 2003, donc c'était l'époque Solana, le document de sécurité. Entre 2003 et 2016, il n'y a pas de mise à jour de document. En 2016, on a la stratégie globale qui a été produite sous Federica Mogherini et qui arrive à un moment donné à un calendrier très malencontreux puisque la stratégie globale de l'UE sort 5 jours après le vote du Royaume-Uni en faveur de la sortie de l'Union européenne, alors même que c'était quand même un acteur essentiel de cette politique étrangère.
On avait prévu de faire tout un truc avec le Royaume-Uni et là le Brexit est venu saboter tout de suite.
Et donc cette stratégie globale se retrouve caduque en fait à sa naissance, malheureusement. En 2016, il y a donc le Brexit et puis il y a aussi la victoire de Donald Trump. Et c'est un moment assez essentiel. Olivier Rimbel y faisait référence justement. C'est un moment très important dans la prise de conscience des Européens que peut-être ils devront prendre en charge une partie plus grande de leur sécurité. Et ce qu'on dit beaucoup en France, qu'on appelle de nos voeux, c'est qu'on a une culture stratégique commune. Donc on sait, on a une histoire et une géographie différentes. Pour autant, ça ne nous empêche pas en tant qu'Européens d'aspirer à un avenir commun. Mais pour cet avenir commun, il faut qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de choses, et notamment l'évaluation des menaces. C'est pas un mystère qu'entre les Baltes et la France et les Espagnols, les Nordiques, on a une vision assez différente de ce qui est notre priorité numéro 1, 2, 3. Ce document de la boussole stratégique, il nous aide à nous mettre d'accord sur ce que sont nos menaces prioritaires et comment on y répond ensemble. Ça, c'est vraiment important. Et donc, pour l'instant, donc il y a eu un certain nombre de versions de ce document qui ont fuité dans la presse, dont on a beaucoup parlé. Josep Borrell, le haut représentant européen, il est assez présent pour faire la promotion de ce livre blanc de la défense européenne, et effectivement, qui est censé aboutir sous présidence française. C'est une de nos priorités. Dans les versions qu'on a vues récemment, les deux menaces qui sont identifiées sont la Russie et la Chine, qui sont des menaces très différentes, évidemment, pour l'Union européenne. Mais je pense que c'est assez essentiel, parce que c'est un socle sur lequel tous les 27 États membres peuvent se mettre d'accord. Et cette avancée-là, ce n'est pas un document qui va tout permettre, mais c'est effectivement ce que disait Olivier Rimbel, c'est un début. On n'est jamais arrivé à ce stade-là, de se dire on est d'accord tous sur le fait que nos priorités en tant qu'Européens ensemble, c'est de faire face à ces menaces. Donc c'est quand même une sacrée avancée, moi, je trouve.
Et effectivement, Tara Varma a raison de repartir de la stratégie globale de 2003 et de 2016. On a ces trois temps, justement, qui vont scander l'Europe de la défense, avec une différence majeure, deux différences majeures pour la boussole stratégique. La première, c'est qu'elle est... À la différence de la stratégie globale, qui était un texte préparé par le SEAE, le Service européen d'action extérieure, la boussole stratégique, elle est certes préparée aussi par le SEAE et la Commission, mais elle est ensuite négociée par les États membres et endossée par les chefs d'État et de gouvernement au Conseil européen. Elle devrait être endossée par les chefs d'État et de gouvernement au Conseil européen de mars. C'est-à-dire qu'on a un document qui fait l'objet d'une appropriation politique par les États membres. Et ça, ça change fondamentalement la nature du document. D'une part. D'autre part, c'est un document qui est beaucoup plus précis. On est au-delà de l'analyse des menaces, on a également en fait dedans toute une série d'actions avec des dates, des échéances en face, avec un mécanisme de suivi qui va remonter au Conseil européen. L'idée est de passer justement de la discussion entre États membres à l'action. On a eu beaucoup de débats dans les affaires européennes au cours des deux années qui viennent de s'écouler, qui essentiellement se résumaient à dire « c'est fantastique, on parle beaucoup d'autonomie stratégique, concrètement qu'est-ce que ça veut dire ?» Et la boussole, c'est une tentative d'apporter une première réponse en disant « ça peut vouloir dire ça, ça, ça et ça ».
Ben justement, j'aimerais en venir un peu là, à qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas, parce que c'est des expressions qu'on a passées un peu rapidement, mais parce que vous les connaissez bien, les fonds structurés, enfin, tout ça, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est des trucs d'architecture
européenne. La suite d'alphabet, ouais.
Ouais, enfin, bon, c'est des trucs, on les voit passer, on fait pas toujours la distinction, et puis il y a toujours ce truc avec l'Europe de la défense ou la défense européenne, qu'il y a d'un côté ce qui relève de l'Union européenne, et ça on sait que c'est compliqué parce qu'il faut que tout le monde s'entende, etc. Puis il y a de l'autre côté un truc un peu plus large de défense européenne qui peuvent être des coopérations bilatérales, trilatérales, etc., mais d'État à État qui passent pas par pour toute la grosse machine de l'Union européenne sur laquelle il faut, bon, si ce n'est l'unanimité, en tout cas il faut avoir tous les soutiens. Donc est-ce qu'on pourrait commencer par faire un tour d'horizon de ce qui relève de l'UE en matière de défense, et puis ensuite on parlera probablement de ce qui relève, disons, de défense européenne au sens large, puisque ça ne passe pas par l'UE que ça n'est pas de la défense européenne, mais on en parlera après. Donc pour commencer, peut-être, parce que ça va être plus rapide aussi, qu'est-ce que l'Union européenne, à l'heure actuelle, fait du point de vue de la défense?
Alors, Olivier Ramibel. Ce qu'on a cherché à faire au cours des dernières années a vraiment été d'investir tous les cadres, Union européenne, hors Union européenne. Pour revenir à l'Union européenne, on a tout d'abord des opérations et missions de la politique de sécurité et de défense commune, c'est-à-dire des opérations soit exécutives, avec la possibilité d'ouvrir le feu. La plus connue peut-être est l'opération Atalante, qui lutte contre la piraterie au large de la Corne de l'Afrique. Et puis on a des opérations, des missions de formation au Mali, en Somalie, en RCA et bientôt au Mozambique, qui elles forment les troupes partenaires.
C'est tous les pays européens qui abondent pour donc des troupes qui sont sous drapeau européen et qui vont faire des trucs précis, que ce soit contre la piraterie ou pour former des
armes. Exactement, c'est une opération. Donc, l'Union européenne n'a pas de troupes en propre, elle dépend des contributions de ses États membres, et elle les agrège si on veut, et sous drapeau européen forme une opération ou une mission.
Et ça, c'est n'importe qui peut s'y coller, même en termes de troupes, par exemple en France, ça peut être n'importe quel régiment, n'importe qui est mis à contribution, ou est-ce qu'il y a des forces un peu plus spécialisées pour la coopération européenne?
Alors, il y a des forces qui ont une dimension plus européenne comme l'Eurocorps, mais n'importe quelle force peut participer aux missions de formation et aux missions de l'Union européenne, comme n'importe quelle force, en fait, peut participer aux missions de l'OTAN, aux missions de l'ONU. Enfin, on a un principe les États membres n'ont qu'un single set of forces. Alors, je ne sais pas exactement quelle est la traduction agréée, mais en gros, il n'y a pas de force dédiée à une organisation. Tout est fongible, en fait, et mis à disposition d'une ou de l'autre des organisations. Et c'est important parce que, précisément, c'est ça qui permet de ne pas avoir de compétition entre les organisations et d'assurer que les États membres puissent répondre à leurs sollicitations, à leurs obligations au titre de leur participation à l'OTAN, à l'Union européenne.
Ça veut dire que, du coup, il n'y a pas un nombre spécial de soldats qui sont réservés à telle ou telle organisation, ce qui fait que ça pourrait créer des jalousies. On pourrait dire qu'on en met plus sur l'Union européenne que sur autre chose, ce qui pourrait être gênant, c'est ça?
Oui, ou ça veut dire que si jamais vos troupes sont occupées à une opération de l'Union européenne et qu'il y a une activation de l'article 5 ou qu'il y a un besoin d'une mission OTAN, que vous ne puissiez pas les déployer parce qu'elles sont certes disponibles mais flaguées UE, ce serait absurde. Donc voilà, le premier élément, c'est ces opérations et missions de la PSDC.
Donc ça, c'est en quelque sorte les boots on the ground, quoi. Enfin, c'est les soldats qui vont faire des trucs pour l'Union européenne.
Voilà, qui sont pas nécessairement nouveaux. Hein. On a depuis Artemis en RDC en 2003, il y a une certaine expérience aussi des opérations et missions de l'Union européenne.
Et alors, au-delà, il y a tous les trucs peut-être un peu moins visibles directement, ou en tout cas qui sont moins des soldats avec un drapeau européen sur le bras, qui sont des investissements, des grands programmes. Alors ça, est-ce qu'on peut quand même faire un petit tour d'horizon de ce que l'Europe fait actuellement avec nos impôts pour la défense européenne?
Alors, peut-être la manière de voir les choses. Donc, on a... l'Europe de la défense s'est construite dans le champ intergouvernemental, parce que justement, ça reste, il y a un enjeu de souveraineté très fort, et donc il n'y a pas eu ce transfert de compétences au niveau européen, comme c'est le cas dans d'autres champs de politique publique. D'où le fait que les opérations et missions de l'Union européenne soient faites par des États membres, l'agrégation de forces. Toujours dans ce champ de la PSDC, on a également la mise en place d'un pot commun, si on veut, pour financer les opérations, qui était le mécanisme Athéna, et qui est aujourd'hui devenu la Facilité européenne de paix, qui va permettre de financer les opérations, des coûts communs des opérations de l'Union européenne, mais aussi de financer les opérations de forces partenaires, ou d'équiper des forces partenaires, par exemple d'acheter du matériel pour les forces armées maliennes.
Donc ça, c'est le compte commun, quoi. C'est le compte en banque commun, tout le monde met un peu, et on peut puiser quand il y en a besoin pour payer, pour les investissements qui correspondent à ces missions-là, quoi.
Voilà, pas des investissements, justement, mais du financement courant de l'opération. Et après, on a quelque chose qui a été très nouveau, justement, c'est ce qu'on disait sur le Fonds européen de défense, c'est-à-dire le développement d'instruments de défense, mais dans le champ communautaire, donc côté commission, au titre, cette fois-ci, de la compétence de la commission en matière de politique industrielle.
C'est-à-dire, la commission s'est reconnue depuis longtemps, on sait qu'ils peuvent financer des trucs, enfin, qu'ils ont un rôle dans l'industrie, et bien là, on se dit, ils peuvent s'y mettre pour l'industrie de défense aussi, c'est ça, en quelque sorte.
Alors, il y a quand même un changement, il y a un changement effectivement quand même. Cette commission qui arrive en décembre 2019, cette nouvelle commission, on continue de dire nouvelle commission, qui n'est plus si nouvelle maintenant, elle arrive avec une profession de foi qui est d'être une commission géopolitique. Donc, il n'y a pas de commissaire à la défense européenne. C'est ce que Olivier Rémy Bell expliquait. En fait, on a beaucoup fait dans l'intergouvernemental. Là, il n'y a toujours pas de commissaire à la défense européenne. Malgré tout, il y a un commissaire au marché intérieur qui s'occupe aussi des questions de défense et du spatial. Et c'est vraiment, je trouve que le changement de paradigme de la manière dont l'UE pense se manifeste aussi là, puisque l'UE comprend enfin qu'elle est un acteur géopolitique. En fait, elle est déjà perçue telle qu'elle par ses rivaux et par ses partenaires. Sa force, c'est le marché intérieur, sa puissance économique. Il faut qu'elle se serve de cette force économique pour se doter des instruments de sa puissance technologique, militaire, de défense, entre autres. Et donc, on voit
ce
changement-là.
Ça, c'est l'idée de financer sur fonds européens des gros programmes industriels de défense.
Mais ça, c'est quand même c'est un gros changement de paradigme aussi. Il y a quand même... Enfin, on le voit bien. La chercheuse allemande Claudia Mayer, elle dit beaucoup... c'est très difficile de traduire le concept d'Europe de la défense. D'ailleurs, ça ne se traduit pas trop. Généralement, on dit « European Defense ». Et quand on parle dans un cadre franco-allemand d'Europe de la défense, les Allemands entendent Europe et les Français entendent défense. Et c'est pour ça que les Allemands, ils préfèrent être dans un cadre institutionnel propre, fonctionner avec la coopération permanente structurée, avec des programmes européens bien définis. Nous, on aime bien ça aussi, parce qu'on considère que ça fait partie de... Ça contribue à créer une culture stratégique commune, mais on a aussi envie de faire des choses en format ad hoc, plus agile, plus efficace. Et typiquement, la proposition de l'Initiative européenne d'intervention, qui voit le jour en mai 2018, elle sort de ça. C'est vraiment l'idée de créer des coalitions, coalition of the willing en anglais, des coalitions de volontaires, coalitions de volonté presque plutôt, et d'avoir autour de la table des États membres qui manifestent une ambition commune. Ça n'a pas besoin d'être les 27. On sait qu'il y a des processus européens qui peuvent être un peu longs, qu'on ne comprend pas toujours. Là, il y a une ambition politique qui est affichée, et ceux qui veulent s'y associer peuvent s'y associer. Pour les Allemands, c'était un peu difficile aussi, ça. Pas que pour les Allemands, d'ailleurs. Mais c'est vrai, ils se sont associés à l'Initiative européenne d'intervention. Il y a eu un certain nombre d'États membres qui y sont. Le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union européenne, en fait aussi partie. Donc c'était assez intéressant. Et on voit quand même qu'il y a des visions sur ce que peut être l'Europe de la défense ou la défense européenne. Pas qui se font concurrence, mais en tout cas qui évoluent simultanément. Et c'est sûr que la France a une ambition affichée, d'aller plus loin que d'autres, plus loin et un peu différemment aussi que d'autres États membres.
Alors justement, parlons-en. Donc ça, c'est bon, les côtés proprement européens. Mais donc, pour compléter le tableau, il faut évidemment parler des initiatives qui sont hors UE, qui pour autant sont de la défense européenne, parce que si ça renforce les capacités militaires de pays européens, c'est de la défense européenne, quand bien même ça ne vient pas directement de l'UE.
Alors je pense que ce que vous dites, c'est une vision très française. Il y a, et on y viendra, mais je... mais c'est tout à fait normal, absolument, et c'est normal, mais c'est, en fait, en vous entendant, ça m'interpelle, parce que je pense que ce qu'on considère, nous, précisément, comme allant dans le sens d'une défense européenne plus forte, c'est très clairement perçu par d'autres comme... mettant des coups de poignard dans l'Alliance transatlantique.
Mais non, mais pas... Alors, on va revenir dessus, parce que c'est évidemment les obstacles dont on parlera, mais simplement en disant, bah voilà, il y a plein de trucs qui se passent aussi hors de l'Europe. Si on reste sur les programmes industriels, bah voilà, on sait que les gros programmes industriels de défense pour la France aujourd'hui, ils sont européens, mais c'est le SCAF, donc l'avion du futur, enfin l'avion de combat du futur, c'est le FGCS, donc le char de combat du futur, c'est l'Eurodrone, donc un drone du futur. Tout ça, c'est que des trucs qui ne relèvent pas de l'UE. C'est des choses qui sont faites entre pays européens, mais pas dans le cadre de l'UE. Donc, et je sais que, enfin, bon, dans chacun des dossiers que je viens de mentionner rapidement, il y a des problèmes, sans même ajouter ce lieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, peut-être, parce que ça pose la question, disons, de l'articulation des deux. Comment est-ce qu'on peut faire coexister? Bon, bah, on essaye de développer un chantier UE, et en même temps, il y a des chantiers bilatéraux, trilatéraux, quadrilatéraux, tout ce qu'on veut, qui existent à côté. Mais comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on réussit à faire entrer les deux en synergie, si tant est que ce soit possible? Olivier Avimel?
Mais en fait, ce que vous dites est très intéressant, parce que justement... ce souci qu'on a eu au cours des dernières années a été d'investir tous les formats. Côté Union européenne, le Fonds européen de défense, la coopération structurée permanente, donc qui était ce cadre politique qui a été lancé pour cristalliser la volonté des États membres autour d'un certain nombre de projets. Le cadre hors Union européenne, avec l'initiative européenne d'intervention dont Tara Varma vient de parler, avec la Task Force Takuba, qui est un groupe de forces spéciales européennes qui accompagnent les forces armées maliennes, qui mentorent les forces armées maliennes, et puis avec des programmes industriels en bilatéral, à plusieurs, dans différentes géométries, avec aussi une densification du réseau des relations bilatérales. On a le traité d'Aix-la-Chapelle avec l'Allemagne, le traité du Quirinal avec l'Italie, le partenariat franco-grec, des relations bilatérales qui se sont approfondies avec par exemple l'Estonie ou la République tchèque, qui sont traduites par le déploiement de ces pays au Sahel.
Donc c'est l'idée que la densification, c'est plus on fait de liens bilatéraux ou trilatéraux, etc., plus à la fin, quand on regardera le puzzle dans l'ensemble, ça fera une sorte de truc qui ressemblera un peu à des choses, un truc vraiment européen.
Parce que ce qui compte au final, c'est la capacité de protéger les citoyens européens et de permettre aux Européens de défendre leurs intérêts de sécurité. On aurait tort d'avoir une approche qui commencerait par les instruments en disant tout doit passer par le cadre de la PSDC, par le cadre de l'UE, ou ainsi de suite. Ce qui compte, c'est d'abord cet objectif de protéger les citoyens européens et ensuite de regarder quels sont les meilleurs outils, quels sont les meilleurs canaux, d'avoir des choses qui se renforcent mutuellement, et ainsi de suite.
Je pense qu'au même titre qu'on dit beaucoup que les souverainetés européennes et nationales ne sont pas mutuellement exclusives, l'idée de travailler ensemble en bilatéral, en européen et dans le cadre communautaire ne sont pas non plus mutuellement exclusives. Il y a aussi une dimension industrielle. Là, la France offre quelque chose qu'un autre État membre a indiqué qu'il en avait besoin. Et donc, ce sont aussi des affaires industrielles et financières, là, pour le coup. Mais je pense que la question, c'est est-ce que ça duplique nos efforts? Et je ne crois pas que ça les duplique. Je pense que ça les démultiplie.
Donc les dupliques, en l'occurrence, ce serait plutôt négatif. Ce serait l'idée qu'on serait en train de se disperser, à la fois en se lançant dans des chantiers européens et en même temps en se lançant dans des chantiers bilatéraux.
Mais ce n'est pas que ça, c'est le côté redondant de la chose. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait plusieurs fois la même chose avec plusieurs acteurs différents? Dans ce cas-là, effectivement, peut-être qu'on se tire vers le bas ou vers l'arrière. Là, l'idée, c'est... on se renforce mutuellement en tant qu'Européens, d'un point de vue bilatéral et multilatéral. Je pense que c'est ça aussi qui est important, parce que l'Union européenne, aujourd'hui, ne produit pas le char d'assaut du futur, ni l'avion de combat du futur. Donc, en revanche, il y a des États membres de l'Union européenne qui sont en train de le faire ensemble. Je ne crois pas que ce soit négatif, vraiment. Et il vaut mieux qu'ils avancent ensemble, c'est assez nécessaire. Tous ces États membres ont manifesté l'envie de le faire. Donc, à ce niveau-là, et peut-être qu'on y reviendra, il y a par ailleurs des tensions dans la mise en œuvre de ces grands projets industriels. C'est pas non plus absurde qu'il y ait des tensions quand la France et l'Allemagne construisent ensemble l'avion du combat, avec l'Espagne bien sûr, l'avion du combat du futur. C'est quand même, on revient de loin en fait quand on pense au début du XXe siècle, donc c'est pas étonnant.
Olivier Mubel.
Oui, et justement, je trouve ce qui illustre bien en fait cette complémentarité entre les efforts industriels nationaux ou bilatéraux, multibilatéraux, et l'Union européenne, c'est la mécanique du Fonds européen de défense. En fait, aujourd'hui, les projets qui sont éligibles à des financements du Fonds européen de défense sont généralement en cofinancement avec les États membres. C'est-à-dire qu'un petit groupe d'États membres vont rassembler plusieurs industriels, monter un projet, mettre des financements nationaux, et puis ils vont chercher un complément de financement au niveau européen. C'est-à-dire que ce qu'apporte l'Union européenne, c'est un levier supplémentaire. On n'est pas dans une compétition entre ces efforts nationaux et les mécaniques européennes, mais au contraire, la mécanique européenne vient démultiplier ce que peuvent faire les États membres ensemble et les inciter à se rassembler. Derrière le Fonds européen de défense, il y a aussi cette idée de réduire la fragmentation de l'industrie de défense européenne en incitant les Européens à coopérer et donc en donnant un premium, si on veut, en incitant financièrement les projets en coopération.
Ouais, mais alors du coup, tout ça, c'est aussi dans une certaine mesure par un aveu d'impuissance, mais en tout cas un aveu que ce qu'on fait en bilatéral, c'est qu'on ne peut pas le faire à l'échelle de l'Union européenne, en tout cas pas actuellement et pas dans un futur proche et prévisible, quoi. Alors j'aimerais maintenant qu'on parle de pourquoi. C'est-à-dire, si on essaye de faire un tableau des réticences, des blocages, des choses qui ne fonctionnent pas dans l'Europe de la défense, ou en tout cas dans la construction défense de l'Union européenne, je vais vous poser la question le plus simplement possible, mais c'est pas très bien de la poser comme ça, mais j'espère que vous allez répondre. Qui sont les mauvais élèves, en tout cas de notre point de vue, c'est-à-dire qui sont les pays qui sont traditionnellement les plus réticents aux initiatives de défense européenne et pourquoi ?
Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même rappeler que l'Union européenne, c'est un peu contre-naturel pour elle de se lancer dans ces discussions. C'est un projet de paix dont l'idée quand même de base était, en devenant interdépendant économiquement, on aura moins de raisons de se faire la guerre. Alors, il y a évidemment l'échec de la communauté européenne de défense en 1954. Malgré tout, il y a des efforts dès les années 2000 pour essayer de se mettre ensemble. Mais quand même, l'Union européenne, elle fait un gros travail sur elle-même pour travailler sur ces questions-là.
C'est des mauvais points uniquement du point de vue français. Hein. Je ne sais pas...
Je vais quand même répondre à votre question parce que... On se parle justement là du niveau d'ambition qu'on a envie de cibler. Et c'est aussi pour ça, je pense, que l'exercice de la boussole stratégique, ça ne répond pas à tout, mais c'est quand même intéressant qu'on soit parvenu à le faire, parce qu'on part quand même d'assez loin. Le terme d'autonomie stratégique, ça a été quand même un terme extrêmement controversé, qu'on a beaucoup endossé, nous, et qui a été rejeté assez massivement par un certain nombre d'États membres de l'Union européenne. Beaucoup d'États membres qui ont l'impression que la France veut se séparer des États-Unis, mettre en cause la relation transatlantique et la garantie de sécurité pour quand même un certain nombre d'États membres. Il y a 21 membres de l'Union européenne qui sont aussi membres de l'OTAN et qui comptent sur l'OTAN comme garantie première de la sécurité nationale. Cet élément-là, il est quand même à prendre en compte en particulier et on l'oublie
beaucoup.
Parce que
rappelons que dans autonomie stratégique, le côté provocateur relativement, c'est que l'idée que ces pays-là soient autonomes par rapport à l'OTAN et ils ont... cocasses, enfin des déroutantes pour un certain nombre de ces pays qui reposent sur la garantie américaine depuis 50 ans, 60 ans maintenant, quoi.
Exactement, voire même pour certains moins que ça. Mais malgré tout, l'offre qui était sur la table à l'époque, c'était la garantie de sécurité américaine et c'est ce à quoi ils sont attachés. Le facteur Trump a bouleversé quand même, même ses États membres, puisqu'on a bien compris que Trump a quand même déclaré à un moment donné que l'Union européenne était un ennemi pour les États-Unis. Il l'a écrit dans un tweet, d'ailleurs, il ne l'a pas juste dit. Donc, on nous a beaucoup dit qu'il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière les tweets, et faut pas lire les tweets, c'est pas très important. Il a quand même appliqué... il a été assez cohérent, moi, je trouve, avec ce qu'il disait et ce qu'il écrivait. Et donc, il a dit aussi très clairement que la sécurité des Européens, c'était pas sa priorité. Donc, on a beaucoup avancé. Je crois que les Français ont été assez provocateurs et ambitieux là-dessus. On a parlé de mort cérébrale de l'OTAN. On a parlé d'autonomie stratégique. Mais donc, on a secoué les Européens. On a essayé de leur dire, en fait, au-delà de ce qu'on aurait envie de faire, nous, d'un potentiel agenda caché français, là, votre garantie de sécurité est en train de vous dire que vous n'êtes pas sa priorité, que vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Donc, est-ce que vous avez pas juste envie de prendre les choses à bras-le-corps et qu'on le fasse ça ensemble ? Donc ça avance un peu. Le fait même que l'Union européenne soit en train de se doter d'instruments de puissance, c'est quand même une révolution. Et l'Union européenne en tant que telle ne pourra pas le faire. Pour l'instant, l'OTAN, avec le retour d'une administration avec laquelle c'est quand même un peu plus simple de travailler, malgré AUKUS, et peut-être qu'on y reviendra aussi. L'idée, c'est quand même que les Européens se préparent à affronter un monde très différent de celui d'il y a 30-40 ans. Et le monde qu'ils ont besoin d'affronter, c'est pour ça aussi que les deux menaces de la boussole stratégique, elles sont intéressantes. La Russie, c'est effectivement la dimension militaire. A priori, ce serait quand même plutôt l'OTAN qui la gérerait. La Chine, pour l'instant, c'est une menace économique qui peut se transformer potentiellement en menace militaire. Et l'UE se dote quand même typiquement de l'instrument anti-coercition. C'est aussi une révolution. Donc, voilà, on avance. C'est pas parfait, mais on avance.
Ouais, mais je vois que vous avez complètement réussi à esquiver la question. Non, mais je vais la reposer. Quels sont les pays quand, voilà. C'est pas mystérieux. Il y a des négociations en permanence sur ces trucs-là. Qui est-ce qu'il faut convaincre pour qui est-ce qu'il faut faire le plus de gesticulation, en quelque sorte, pour les convaincre et pour qui est-ce que c'est plus facile, plus dans leur identité, ou qui sont plus réceptifs, disons, aux arguments et aux préoccupations françaises. Olivier Amibel ?
Alors,
je veux des noms de pays, hein, je ne vous lâcherai pas tant que je n'aurai pas des noms de pays.
Sans esquiver la question, mais en fait, ça ne se résume pas à qui est pour ou qui est contre l'Europe de la défense. Par exemple, on s'aperçoit, mais comme le disait Tara, qu'on a une prise de conscience aujourd'hui chez les Européens, qu'il se passe quelque chose chez leurs partenaires américains, que leur garantie de sécurité n'est plus la même, mais tous n'en tirent pas nécessairement la même conclusion, ou tous ne souhaitent pas que ça s'incarne ensuite de la même façon, à travers les mêmes instruments. Et donc c'est pas nécessairement une question d'être pour ou contre l'Europe de la défense, c'est juste une question, c'est une énorme question, mais c'est de prendre en compte les différentes contraintes politiques de chacun des États membres, leurs différentes visions de l'environnement stratégique. Si vous êtes aujourd'hui un petit État balte à la frontière de la Russie, ou si vous êtes la Grèce, vos menaces sont pas exactement les mêmes. Vos menaces immédiates, comme disent les Américains, l'alligator le plus proche du bateau, n'est pas le même. Et donc aujourd'hui, c'est ça en fait tout le travail des négociations. C'est aussi de comprendre les contraintes qui peuvent être constitutionnelles. Par exemple, avec des États comme l'Allemagne ou comme l'Irlande qui ont besoin d'un mandat d'une organisation internationale, l'Union européenne, les Nations unies pour se déployer, et donc qui peuvent avoir des difficultés à venir dans des cadres ad hoc. C'est tout ça aujourd'hui qui forme la difficulté en fait des négociations de l'Europe de la défense.
Oui, mais donc philosophiquement, quels sont les pays pour qui c'est le plus compliqué d'aller dans ce sens-là ?
Mais je pense même pour l'Allemagne, on sous-estime beaucoup en France à quel point en Allemagne, l'alliance transatlantique est le fondement de la sécurité nationale. Et c'est vrai qu'on a dû... En 2017, quand Emmanuel Macron fait son discours de la Sorbonne, on s'attendait à une réponse très enthousiaste du côté allemand. Bon, il se trouve qu'ils avaient, eux, des préoccupations électorales à ce moment-là, de la négociation de la coalition. Mais par ailleurs, ça les a un peu effrayés d'être mis comme ça devant le fait accompli qu'ils auraient dû répondre aux Français sur une problématique sur laquelle ils n'étaient pas tellement d'accord avec nous. Et là aussi, il y a du chemin qui a été fait, parce que quand on lit le contrat de coalition qui est présenté aujourd'hui par le nouveau gouvernement allemand, En l'espace de 4 ans, c'est un sacré pas qu'ils ont fait, avec une volonté beaucoup plus forte de renforcer les capacités de défense européennes, ils l'affirment telle quelle, sans remettre en cause l'alliance transatlantique, mais ils comprennent bien, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit beaucoup en France, les deux ne sont pas du tout mutuellement exclusifs non plus. On nous a beaucoup fait un procès d'intention sur le fait que l'autonomie stratégique, ça veut dire se couper des États-Unis. Et c'est intéressant, parce que moi, je suis quand même souvent dans des formats avec des Européens, où je me retrouve quand même beaucoup à leur dire... que la France, en fait, est un des États membres de l'UE qui coopère le plus avec les États-Unis, qui a une coopération de sécurité et militaire qui est la plus avancée sur les questions de renseignement aussi. Donc ça m'étonne toujours, enfin, bon, de mon point de vue, ça m'étonne toujours. Et eux nous soupçonnent toujours beaucoup de vouloir faire ça. Je ne crois pas que les Français du tout aient envie de faire ça. Et ce qu'on dit beaucoup, c'est que les deux sont complémentaires. On va voir, sur les pays baltes, qui étaient très opposés à ces questions-là, ils ont changé un peu.
Ils étaient très opposés à la construction de la défense européenne ?
Oui, parce que pour eux, ça voulait forcément dire... que c'était de la duplication avec ce que faisait l'OTAN, alors même qu'effectivement, on se dit, bah non, s'il y a des choses qui proviennent de l'OTAN, il n'y a pas tellement de raisons de les faire dans un cadre européen non plus. Ce qu'il faudrait faire là, en cadre européen, c'est ce que l'OTAN ne fait pas. Et en fait, il y a beaucoup de choses dans les questions, les menaces de sécurité ou les priorités stratégiques de l'UE que l'OTAN ne fait pas. Et donc, ça nous semblerait assez logique aujourd'hui que ce soit l'UE qui s'en charge, que ce soit le voisinage au sud ou la projection un peu plus loin... par exemple dans l'Indo-Pacifique.
Donc si je comprends bien, mais bon, c'est ce qui se dessine depuis tout à l'heure. Les pays qui sont le plus opposés à la construction, enfin le plus réticents, disons, à l'avancée de ces projets-là, c'est les pays dont l'alliance, chez qui l'alliance atlantique est la plus constitutive, disons, de leur identité, de leur culture stratégique, disons.
Mais je pense que les États-Unis ne nous ont pas non plus beaucoup aidés dans ce débat, parce qu'on nous dit aussi beaucoup aux États-Unis, mais alors l'autonomie stratégique c'est quoi? C'est compliqué, nous on ne voit pas du tout l'Union européenne comme un acteur de sécurité et de défense. Donc là-dessus aussi, à vrai dire, en l'espace de quelques mois, les discussions ont changé. En janvier doit se tenir le premier conseil Union européenne-États-Unis sur les questions de sécurité et de défense. C'est la première fois. Effectivement, en fait, en dehors de l'OTAN, il n'y avait juste... En fait, on s'en est rendu compte sous l'administration Trump. En dehors de l'OTAN, il n'y a pas de format formel dans lequel les Européens et les Américains peuvent discuter de questions bilatérales. Alors qu'il y a des questions de sécurité au-delà des questions militaires qui touchent la relation transatlantique, qui sont assez essentielles, on l'a vu. Et en fait, quand les canaux de communication traditionnels étaient fermés, on s'est rendu compte que c'était assez problématique de ne pas pouvoir aller ailleurs. Et au fur et à mesure, les choses avancent. Le conseil sur le commerce et la technologie s'est tenu entre l'Union européenne et les États-Unis s'est tenu pour la première fois aussi cet automne. Sur les questions de sécurité et de défense, c'est formalisé. Alors c'est formalisé parce qu'il y a eu la crise AUKUS et qu'on a beaucoup poussé à Paris pour que ça ait lieu. Mais ça, c'est aussi un vrai changement.
Ouais, par exemple, sur la crise AUKUS, sans vouloir... Mais on va y venir aussi, mais c'est... Ah, c'est flagrant que les priorités sont pas tout à fait alignées, c'est-à-dire au moment donc de la trahison, le coup de Jarnac, tout ce qu'on veut, mais bon, au moment où donc il y a eu cet accord, l'affaire des sous-marins australiens, etc. La France, la première réaction de la France a été un truc européen de à moi l'Europe, venez à ma rescousse, et bon, les pays européens ont répondu au moins. Ils ont dans le discours, quoi. Ils ont fait des déclarations. La Commission a fait un peu des déclarations pour dire c'est pas bien, etc. Enfin bon, on commence à se poser des questions aussi. Après, quand on regarde un peu le truc en détail, depuis, la France est un peu plus isolée que ce qu'on espérait probablement sur le moment, et notamment, bah, je sais pas, par exemple, les ruptures, mais les éloignements de relations avec l'Australie, il y a un certain nombre de refroidissements où il y a un paquet de pays européens qui sont pas très, ni très contents, ni très chauds pour suivre la France dans ce chemin-là, quoi. Vous le direz, Mibel ?
Oui, sur les relations avec les pays, mais juste un point pour rebondir, ce dialogue de sécurité et de défense entre les États-Unis et l'Union européenne est vraiment intéressant parce qu'il consacre en fait toute l'évolution de l'Union européenne depuis 2016-2017, depuis ce tournant en fait où on commence à avoir du financement de l'Union de côté Commission pour la défense, on commence à avoir une transformation en fait culturelle de l'Union européenne et faire en sorte que les États-Unis ouvrent un dialogue avec l'Union européenne sur ces questions de défense, c'est reconnaître que finalement aujourd'hui l'Union européenne est en passe de devenir un acteur pertinent sur les questions de défense. Et ça c'est vraiment nouveau. C'est-à-dire qu'on a eu un changement idéologique au sein de l'Union européenne qui s'est traduit par des nouveaux instruments et qui est aujourd'hui reconnu par un acteur extérieur. Pour revenir à la question justement de ces relations bilatérales et des relations entre les Européens autour de l'Europe de la défense, ce qui je trouve est intéressant, c'est que les Européens aussi font la distinction entre les formats. Par exemple, on a dans les pays baltes qui du coup, pour qui la principale menace est aujourd'hui la Russie et qui accorde une importance particulière à la garantie de sécurité américaine et à l'OTAN. Parmi ces pays baltes, on a l'Estonie qui a développé une relation bilatérale très dense avec la France. Puisque la France participe, donc la présence avancée rehaussée de l'OTAN en Estonie. Et les Estoniens ont déployé des troupes d'abord dans Barkhane et puis aujourd'hui dans Takuba, c'est-à-dire dans un format ad hoc mené par la France. On a des projets en commun au sein du Fonds européen de défense et de la coopération structurée permanente. C'est-à-dire que là aussi, y compris chez ceux des États membres de l'Union européenne qui accordent le plus d'importance à l'OTAN, on voit aussi une volonté d'investir dans les autres cadres ou de se déployer dans les autres formats de coopération, que ce soit avec la France ou avec d'autres partenaires.
Oui, mais vous voyez, cette affaire, on peut revenir une seconde sur l'affaire des sous-marins australiens, elle est intéressante parce qu'elle renvoie à toute la très grosse problématique de qui a quelle priorité. On en parlait il y a quelques mois avec Hugo Meyer, qui a publié récemment un papier important là-dessus sur l'idée de... Voilà, qu'est-ce que les Européens peuvent faire ensemble, notamment qu'est-ce qu'ils pourraient faire si les États-Unis se retiraient un peu. Et bon, il y avait plein de problèmes, mais un des problèmes, c'était que les priorités stratégiques sont absolument dans tous les sens. Il y a ceux qui considèrent que la menace vient du Sud, il y a ceux qui considèrent que la menace vient de l'Est, etc. Et sur un côté moins dramatique, quelle est la menace existentielle pour les pays européens, mais sur une affaire... un peu de sensibilité et de vexation comme AUKUS, et puis qui a aussi des vraies conséquences industrielles, on voit que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur à quel point est-ce que cette affaire-là est grave et embêtante. Donc, comment est-ce que c'est la boussole stratégique qui va unifier tout à coup ces visions stratégiques où il y en a de toute évidence 28 qui sont un peu différentes les unes des autres? Comment est-ce qu'on envisage cette harmonisation à terme? Et ce qui veut dire aussi que les pays européens auraient la capacité de réagir de manière un peu plus synchrone et un peu plus harmonieuse quand il se passe quelque chose comme ça, quoi. Tara Varma?
Alors, d'abord sur AUKUS, moi j'en ai une lecture un peu différente parce que je pense qu'en fait la France a plutôt été très isolée au début. Et la réaction de solidarité européenne, elle a mis un peu de temps à venir. Il y a eu quand même 3-4 jours après l'annonce où on était assez seuls. Il y a eu un autre événement de calendrier malencontreux qui était donc le 15 septembre, les Américains annoncent AUKUS. Et le 16 septembre au matin, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, faisait son discours pour annoncer la stratégie européenne de l'Indo-Pacifique. Évidemment, dont la coopération transatlantique formait une base solide. Donc il y a eu un cas de divergence assez clair. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'après cette phase d'isolement pour les Français, à la fois des Européens et des Américains, il y a eu une mobilisation de la Commission européenne et du Service européen d'action extérieure pour défendre cette stratégie indo-pacifique. D'une certaine manière, AUKUS a un peu remobilisé la structure institutionnelle européenne. Et mais on entend beaucoup...
Vous voyez, ça, c'est pas la même chose que de mobiliser les pays européens.
Mais ça vient petit à petit. On a entendu quand même... Il y a eu des formes de solidarité qui ont été exprimées par des États membres, parce que je pense qu'ils ont compris à quel point pour la France c'était assez dévastateur. Et puis un certain nombre d'entre eux ont aussi vu que, alors même que la France est un partenaire quand même de coopération de sécurité et de défense important pour les États-Unis, mettre la France dans cette situation, ça veut aussi dire que les États-Unis pourraient potentiellement faire ça à d'autres États membres aussi, qui n'ont pas les capacités industrielles que la France a. Donc je crois que cette réalisation aussi, elle a un peu... Elle a percolé dans un certain nombre d'États membres et elle a mené au fait qu'il y a un conseil bilatéral qui va discuter de sécurité et de défense. Donc tout n'est pas résolu. La boussole stratégique, elle ne va pas tout résoudre. Et d'ailleurs, un des termes que vous avez utilisé, c'est harmonisation. Je ne crois pas qu'on aille vers une harmonisation. Il faut qu'il y ait par contre une convergence vers les priorités et les intérêts stratégiques. Et ce n'est pas la même chose qu'une harmonisation. On aura... Je pense qu'il faut l'assumer clairement, c'est logique en fait, on a des priorités de sécurité nationale et des priorités de sécurité européenne. La boussole stratégique, elle répond aux priorités de sécurité européenne. Et ça, c'est une avancée en tant que telle. Les autres États membres, ils vont continuer à avoir leurs priorités de sécurité nationale. Donc l'harmonisation, à mon avis, c'est effectivement, il faut pas qu'on se fixe ça comme objectif parce que c'est pas atteignable.
Jérémy Bell ?
Non, et effectivement, c'est très important, c'est-à-dire que... Évidemment que la géographie des États membres et leur histoire va aussi dicter leurs priorités de sécurité. Ce qu'on cherche à faire émerger, c'est cette idée d'une solidarité européenne. C'est-à-dire que, certes, voilà, votre échelle des menaces n'est pas la même que la mienne. Néanmoins, quand vous avez un incident, tous les autres Européens viennent à vous soutenir. Et inversement, quand moi j'ai un incident, tous les autres Européens viennent me soutenir, et ainsi de suite. Et c'est ça, pour reprendre encore cet exemple de l'Estonie et de la France, c'est aussi ça qui se joue. C'est-à-dire que la France est venue déployer des troupes. Hein. Concrètement, il y a des chars Leclerc aujourd'hui qui sont en Estonie.
C'est les exercices Lynx au sein de l'OTAN. Non, c'est Lynx ?
C'est la mission Lynx, c'est pas un exercice, hein. c'est une mission de l'OTAN. Ils sont déployés dans une mission de l'OTAN. Et en contrepartie, il y a des, pas en contrepartie justement, mais en réciproque, il y a des Estoniens qui viennent aujourd'hui avec les Français. Mais en fait, c'est quelque chose qui est relativement courant, parce que la France assure par exemple la police du ciel dans les pays baltes. Je trouve un élan de mobilisation des Européens au Sahel. Enfin, c'est quelque chose. Alors, on peut en faire tout un épisode dessus, mais il y a une géographie intéressante de l'Europe de la défense au Sahel, puisqu'aujourd'hui, dans la Task Force Takuba, vous avez principalement des pays nordiques et des pays d'Europe centrale et orientale. Et d'ailleurs, la Task Force elle-même est commandée par un colonel suédois. C'est pas des pays qui traditionnellement se projettent en bande sahélo-saharienne ou s'intéressent à la question des groupes djihadistes au Mali.
Ouais, mais vous voyez, on pourrait effectivement parler de Takuba parce que c'est intéressant. Ils sont pas tous également désireux d'afficher ces choses-là. C'est très manifeste que par exemple quand il y a des reportages, quand il y a des articles sur Takuba, il y a un brouillage sur qui met quoi. Qui est très très réel, qui est par ailleurs intéressant, ne serait-ce que, enfin, ça dit quelque chose, je sais pas exactement quoi, mais des priorités, de qui est prêt à assumer quoi sur ce genre d'initiative dans une certaine mesure.
Non. Ouais, j'ai pas nécessairement cette perception d'un brouillage en fait de l'affichage des contributions à Takuba. Il y a un certain nombre de choses qui voilà sont aussi liées au fait qu'on ne peut pas nécessairement tout communiquer dans des opérations de force spéciale. On a aussi des calendriers politiques qui évoluent dans des tempos différents chez les États membres, donc ils sont parfois difficiles à synchroniser, ce qui peut parfois aussi donner l'impression d'un flottement sur la comptabilité du nombre de partenaires. Mais on a aujourd'hui des partenaires qui s'affichent avec nous. On a par exemple eu, c'était au printemps dernier, je crois, la ministre des Armées qui était allée au Sahel, justement, avec son homologue estonien, son homologue tchèque, enfin on a... ou la République tchèque, par exemple, qui avait du coup candidaté pour prendre le poste d'envoyé spécial de l'Union européenne pour le Sahel, qui s'est reporté volontaire pour prendre le commandement de la mission de formation de l'Union européenne, qui est en train de faire du Sahel une de ses priorités, alors que c'est pas exactement son environnement stratégique immédiat.
Et peut-être pour ajouter, on a appris récemment que la Lituanie allait aussi rejoindre Takuba, et je trouve que ça, c'est un exemple assez intéressant de la manière dont l'Union européenne se projette comme acteur géopolitique. La Lituanie, elle fait face à des menaces de coercition économique, et d'ailleurs pas que des menaces, de la mise en œuvre de menaces par la Chine de coercition économique très forte. Et je pense que c'est pas anodin que dans ce contexte qui est très dur économiquement pour eux, ils annoncent qu'ils vont aussi faire partie de Takuba. On voit bien que là, tout à coup, l'Union européenne, qui fonctionnait vraiment en silo, il y avait la direction sur le commerce, la direction sur le marché intérieur, etc., tout très séparé sur le développement international... Soudain se dit, ok, en fait, non, si la Chine est en train de menacer un État membre économiquement, elle l'a fait d'ailleurs avec la Suède avant, mais c'est vrai que la pression que reçoit là la Lituanie et la espèce de mise en spectacle de cette coercition de la part du gouvernement chinois fait que les Lituaniens se disent, on a aussi besoin, en fait, qu'il y ait un... Alors, c'est pas un soutien militaire, parce qu'en fait, là, c'est la Lituanie qui va, elle, contribuer à une opération européenne, mais... Les deux sont liés. Et le fait que les deux arrivent en même temps montre aussi que l'Union européenne, petit à petit, évolue et commence à assumer un peu les instruments de sa puissance.
Et ce qui est justement intéressant dans cet élargissement du champ, c'est que la boussole stratégique, c'est pas une boussole sur la PSDC. On a une boussole qui ne se limite pas aux opérations, aux missions, à ce qui est dans le champ intergouvernemental. C'est une boussole qui est transverse, en fait, et qui inclut aussi la Commission, qui inclut aussi les instruments de la Commission, et notamment en matière de lutte contre les menaces hybrides, la désinformation, le spatial, et c'est ça qui illustre bien, je trouve, cette fusion, enfin, cet élargissement de la focale dans la gestion des menaces.
Alors peut-être pour parler d'effectivement un des points de contention sur la boussole, c'est la création de cette capacité autonome européenne de déploiement rapide. Donc Joseph Borrell avait mis dans une des versions du rapport que ce serait une force de 5000 hommes. Alors on s'est dit c'est vraiment une ambition très limitée, c'est complètement absurde. Quand il s'agissait de 60 000 hommes il y a 15 ans, on n'a jamais été capable de le faire.
Ça, on peut dire c'est le truc d'Helsinki, donc c'était Helsinki 99. C'était, il fallait déployer un corps d'armée. Un corps d'armée, c'est autre chose, quoi. C'est pas. Mais parce que. Il y a d'ailleurs un papier intéressant dans le Rubicon, donc le nouveau média en ligne, notamment piloté par l'IRSEM, qui disait ça, qui disait mais c'est quoi la crise qu'on résout avec 5000 hommes ? Enfin, si on dit que l'Union européenne fait une force pour résoudre une crise, quelle crise vous résolvez avec 5000 hommes ? Bah, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que 5000 hommes, ça fait. Au total, ça fait vraiment peu de soldats sur le terrain, quoi.
Et donc ça, c'est un des éléments qui est beaucoup contesté aujourd'hui sur la boussole, parce qu'effectivement, on nous dit, ok, très bien, il y a des avancées, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Concrètement, c'est quoi la défense européenne ? Ce sera boots on the ground. Et là-dessus, effectivement, on a le sentiment que l'ambition européenne, elle s'est sérieusement amoindrie. Mais c'est parce qu'en fait, la défense européenne, en tout cas la sécurité européenne, elle s'entend dans un champ beaucoup plus large, je pense, maintenant. Et... je crois que ce n'est pas si grave que pour l'instant ce soit que 5000 hommes, parce qu'on sait aussi que les États membres ils sont capables de déployer des forces nationales si le besoin s'en faire sentir. Par ailleurs, l'OTAN existe toujours. En fait, c'est aussi ça qui est important à dire. Non, mais je crois qu'il faut qu'on soit cohérent, nous aussi, avec notre discours. Donc, si on est clair sur le fait qu'on n'a pas envie de dupliquer, on ne va pas refaire l'OTAN au niveau de l'Union européenne.
Oui. Effectivement, l'idée n'est pas de refaire l'OTAN, et pour la France, enfin, l'OTAN reste aussi la pierre angulaire de sa défense collective. Enfin, sur ça, il n'y a pas de doute. Sur la force de 5000 hommes, pour le coup, je suis en désaccord, justement, où 60 000 hommes, le problème avec un objectif à 60 000 hommes, c'est qu'il est, démesuré, peut-être pas le terme, mais ça ne sert à rien de planifier pour quelque chose qui est beaucoup trop haut, inatteignable et qui restera sur le papier. Il vaut mieux avoir une force de 5000 hommes, qui n'est pas une force si petite que ça. On a fait Serval dans des effectifs similaires, qui permet de résoudre des crises dans la proximité de l'Union européenne, d'intervenir sur le flanc sud. Mais surtout, ce qui est important, c'est que cette capacité justement de déploiement rapide, l'idée n'est pas de créer une force qui soit parquée quelque part en train d'attendre un éventuel déploiement qui arrivera peut-être ou peut-être pas. L'idée, c'est surtout que travailler à une capacité, le terme capacité, le glissement sémantique de force vers capacité est important. Travailler à une capacité, c'est réfléchir à ce qu'il faudrait pour la déployer. Et donc, c'est réfléchir à... autour de scénarios, c'est réfléchir autour de besoins capacitaires, en disant pour déployer une force de 5000 hommes, c'est-à-dire pour faire de la gestion de crise dans un environnement semi-permissif, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut du transport stratégique, il nous faut de l'ISR, donc des drones, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui nous manque ? Et donc aussi injecter ça dans le processus capacitaire de l'Union européenne. Une flexibilisation des mécanismes de prise de décision. Et c'est en fait d'avoir... cette capacité de déploiement rapide, l'idée est plutôt d'en faire une sorte d'étoile polaire qui va guider toute une série de travaux qui mettra les Européens en capacité de déployer une telle force.
Oui, mais l'idée, c'est pas de la parquer quelque part. L'idée, c'est qu'elle s'entraîne techniquement, parce qu'on peut faire Serval avec des effectifs réduits, parce que c'est des effectifs qui s'entraînent ensemble toute l'année. Mmh. Et c'est ça le problème. Et c'est aussi une partie importante de l'article du Hugo Meyer qui disait que... en ce qui concerne pas ce qu'on appelle le C2, donc le command and control, c'est-à-dire comment est-ce qu'on coordonne une force, comment est-ce qu'on la fait agir bien, bah, tout est dépendant de l'OTAN. C'est les États-Unis qui fournissent ce truc-là actuellement à tous les pays européens, si les pays européens veulent faire un truc ensemble. Donc ce que je veux dire, c'est que ça ne peut pas être qu'un édifice intellectuel de on pourrait mettre des soldats et ils se mettraient à être efficaces ensemble. S'ils ne s'entraînent pas ensemble, ils ne seront pas efficaces ensemble. Et ça, c'est assez imparable, quoi.
Mais justement, c'est exactement ça. Il nous faut, si les Européens veulent déployer une force de 5000 hommes, ça commence par avoir les mécanismes de C2 appropriés, avoir les mécanismes de prise de décision, et ainsi de suite. Commencer par dire, on va créer une force, c'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, la création de la force, c'est l'aboutissement, en fait... de tout ce processus, on aura mis en place des capacités de commandement, on se sera doté à titre national des capacités critiques, transport aérien et ainsi de suite. Et tout ça pris ensemble permettra de créer une force. Plutôt que de commencer en disant on va faire une sorte de nouveau battle group européen qui va attendre le temps qu'on mette en place des mécanismes de ces deux.
Et alors, pour terminer, et en quelque sorte donner des objectifs, enfin, surtout pour essayer d'appréhender, parce que c'est un des problèmes de tout ce qui touche à l'Union européenne, c'est que c'est pas toujours très visible, c'est pas toujours très palpable. Qu'est-ce, à votre avis, à quoi est-ce qu'on verra qu'elle sera réussie, cette PFUE, du point de vue de la défense européenne? Parce que il y a plein de trucs dont on parle qui vont, ça, je veux dire, ça va vite, hein, c'est 6 mois. À l'été, c'est fini. Et les programmes de défense, c'est pas à l'échelle de 6 mois, que ce soit des programmes capacitaires ou des forces réelles. Donc, à votre avis, l'un et l'autre, à quoi est-ce qu'on peut mesurer, si tant est qu'on pourra le mesurer, peut-être vous me direz, on pourra le mesurer dans 5 ans, mais à quoi est-ce qu'on pourra voir que les objectifs de cette PFUE, concrètement, à l'été ou dans un futur proche, en matière de défense et de sécurité, auront été réussis? Je sais pas, Tara Vama?
Bah, je pense l'adoption, déjà, de la boussole stratégique, c'est une première priorité. Alors là, vraiment très concrète, puisque le reste, ça va être de la mise en œuvre.
Parce que c'est pas donné. Parce que, enfin, quand je disais, je préparais cette émission, ça paraissait tamponné, validé, double tamponné pour tout le monde, que ce serait en mars. Mais ce que vous nous dites, c'est que c'est pas si évident que ça non plus.
Bah, a priori, enfin, I don't want to jinx it. Mais a priori, c'est prévu pour ça. Mais c'est, en fait, il y a quand même encore des discussions qui sont en cours. Je pense que c'était aussi pas étonnant. C'était pas si surprenant finalement qu'il y ait plusieurs versions de la boussole stratégique qui circulent. Elle s'est retrouvée dans la presse. Je me suis retrouvée dans une discussion avec le représentant permanent polonais à l'OTAN, qui était une discussion ouverte en ligne. Et puis on parle de la boussole stratégique. Puis tout à coup, il me dit: mais attendez, pour moi, c'est un document secret, la boussole stratégique. Pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de ça maintenant?
Oui, c'est très déconcertant d'avoir des conversations ouvertes où les gens me disent: oui, page 29 de la boussole, j'ai lu ça. Et oui, pardon, je vous rappelle que c'est un document qui n'est pas public.
Qui n'est pas censé être public. Mais on espère que ce sera adopté. Donc, je pense que c'est déjà, en fait, pour moi, ça, c'est une première réussite. En réalité, le fait même qu'on puisse espérer que la boussole stratégique, dont les travaux ont été initiés donc il y a 1 an et demi maintenant sous présidence allemande, que ça aboutisse sous présidence française, c'était un objectif politique franco-allemand qui avait été déterminé à l'époque. Donc ça aussi, c'est important de le rappeler, qu'on est capable de se fixer des objectifs qui sont plus ou moins long terme et d'y parvenir. Donc j'espère que ça marchera. Le fait qu'on parle d'autonomie stratégique, de souveraineté stratégique, d'augmenter les capacités européennes de défense, et que ce soit quand même beaucoup moins controversé en 2022 que ça ne l'était il y a 5 ans, je pense que ça aussi, c'est une sacrée avancée, et qui n'est pas due qu'à la France, mais que la France a certainement poussé auprès des Européens.
Oui, j'y pense sur ces histoires de fuite de la boussole stratégique. C'est intéressant par ailleurs de ce que ça dit de ce que c'est de coopérer à plein de pays et d'acteurs différents, et de, voilà, bah, plus on multiplie les acteurs et plus il y a des fuites, et c'est normal, c'est toujours comme ça. Mais sur les questions de défense et de sécurité, bah, ça montre qu'il y a un savoir-faire, en tout cas de l'hermétisme, qui est pas encore tout à fait là, en tout cas.
Alors, moi, je prendrais les choses un peu à l'envers. Je trouve que c'est quand même une force de l'Union européenne d'être capable d'avoir ces discussions en format plus ou moins ouvert. Il y a des choses qui fuitent, effectivement, mais dans un contexte géopolitique où on voit quand même une montée des régimes autoritaires un peu partout, où ça devient de plus en plus compliqué, alors sans même parler de nos rivaux géopolitiques, même avec certains partenaires par moment, c'est très lent. Parfois, on a l'impression que c'est la montagne qui accouche d'une souris, mais quand même, c'est la seule entité politique au monde qui fait ça, et qui continue de le faire dans plein de formats différents, qui parfois, à nous, citoyens lambda, nous semblent un peu incompréhensibles, mais quand même, qui, par moment, avec de la volonté politique, aboutissent à quelque chose. C'est important de le rappeler. Peut-être que c'est pas aussi sécurisé que ça devrait l'être, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui nécessite d'être dit pour le fait d'avoir un débat démocratique ouvert.
Oui, ce que dit Tara est très important, c'est-à-dire que la boussole stratégique, c'est pas uniquement un document qu'on fait en chambre, voilà, parce que ça nous fait plaisir, les geeks de l'Union européenne, de faire des objectifs et des plannings. C'est aussi un signal politique, y compris vers les citoyens européens, de dire voilà les ambitions qu'on souhaite porter pour l'Union européenne en matière de défense. C'est aussi un enjeu démocratique que les citoyens européens, peut-être les auditeurs de ce podcast aussi, comprennent, se saisissent de ces sujets qui sont aussi portés au niveau européen, parce que c'est leur sécurité qui est en jeu. Et deuxième point sur la boussole.
Elle a fuité par rapport pour les gens qui sont intéressés. Il n'y a pas eu des émeutes dans les rues pour tel ou tel paragraphe de la boussole, quoi.
Non, mais le fait qu'elle ait fuité a permis d'avoir une discussion beaucoup plus approfondie dans la presse, qui est du coup aussi un relais d'opinion important. La partie qui n'a pas fuité de la boussole, cet exercice de la boussole a été précédé par un exercice de partage de renseignements entre les États membres classifiés, qui, elle, n'a bien évidemment pas fuité.
Donc c'est qu'on sait faire aussi. Et alors, pour vous, à quoi est-ce qu'on va voir que ça marche ou pas?
Eh bien, effectivement, le premier élément, c'est cette adoption de la boussole et cette adoption des différentes initiatives. Mais c'est un peu ce qu'on disait en introduction, la boussole est aussi un point de départ, en fait, pour des initiatives qui vont être lancées. Qui vont être lancés avec le trio de présidence, puisque les présidences sont organisées en trio. Donc nous, on est avec les Tchèques qui nous suivent, puis les Suédois. Et l'idée, c'est d'avoir un programme sur trois présidences. On a également travaillé particulièrement avec les Espagnols, qui ont la présidence en 2023. Mais d'avoir quelque chose de durable dans le temps, de la même façon qu'on avait travaillé avec la présidence allemande il y a 2 ans. Et c'est ça qui permet, au contraire, à l'Union européenne d'avoir une action dans la durée. Et donc des choses qu'on espère lancer sous présidence française, comme par exemple une stratégie de sécurité et de défense du spatial à l'Union européenne, aboutira sans doute dans 2, 3, 4 présidences. Et c'est comme ça aussi que fonctionne l'Europe de la défense, c'est-à-dire que quand vient votre tour, vous prenez des initiatives, vous les passez, et puis vous les passez ensuite à vos voisins, vous lancez des ballons qui atterriront plus tard. Et donc c'est ça, c'est toutes ces initiatives sur... les travaux qui mèneront à la force d'entrer en premier. Et par exemple, si on veut revenir dessus, une des choses qu'on souhaite faire, c'est flexibiliser l'article 44 du traité de l'Union européenne. Alors, je ne sais pas si on a le temps de descendre...
Il va falloir vous préciser, parce que là, comme ça, je n'ai pas en tête l'article 44.
En fait, l'article 44, c'est quelque chose d'intéressant. C'est un article qui n'a jamais été utilisé depuis le traité de Lisbonne et qui permet à des États membres qui le souhaitent de... mener entre eux une opération sous le chapeau de la politique de sécurité et de défense commune, mais dans un format, si on veut, d'une coalition de volontaires. Par exemple, concrètement, vous agrégez 4 ou 5 États membres, et ces 4 ou 5 États membres forment un noyau qui, à eux seuls, mène une opération, mais qui reste sous le mandat de l'Union européenne.
Et ça, c'est si on faisait Takuba, mais avec un tampon UE dessus, par exemple.
En gros, si on veut, pour le dire schématiquement, oui. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ça permet d'avoir un continuum d'outils qui... Ça permet d'atténuer l'effet de seuil entre ce qui est hors PSDC, et qui est hors de la politique de sécurité et de défense commune, et ce qui est dans la politique de sécurité et de défense commune. Du coup, vous avez la possibilité de faire des opérations en format ad hoc comme Takuba, des opérations en format coalition de volontaires mais dans l'Union européenne, et puis des opérations classiques de l'Union européenne. Et ce qui vous permet de glisser entre les formats, d'avoir peut-être quelques États membres qui vont partir en premier, puis qui ensuite feront une article 44, puis ensuite...
Et donc ça, à quoi est-ce qu'on verra? Il y a une grosse crise, et si on fait ça et que ça marche, c'est que c'est un bon indice sur ce qu'aura réussi à faire la présidence française.
Voilà, par exemple. Et l'idée, c'est de mettre en place, en fait, aujourd'hui, de préparer ces instruments, en espérant qu'ils soient opérationnels le jour où on en a besoin.
Sachant que, pardon, rappel quand même, on ne préside pas l'Union européenne pendant ces 6 mois. Donc on a un rôle de ce que les Anglais appellent « honest broker », donc de courtier honnête. On est censé fournir des impulsions, on en fournit beaucoup sur les questions de sécurité européenne, mais on accompagne les discussions qui ont lieu entre les 27. Donc juste, c'est quand même utile de le rappeler, tout ne peut pas se passer pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Il y a des choses qui aboutiront à ce moment-là, typiquement la boussole stratégique. On l'a débuté, je le rappelle parce que c'est quand même important, on l'a commencé avec les Allemands il y a 1 an et demi. Ça aboutit pendant notre présidence. On va lancer d'autres projets qui aboutiront pendant d'autres présidences. Et heureusement, en fait, parce qu'il ne s'agit pas juste que ce soit une initiative française, mais qu'on arrive à pousser certaines idées auprès de nos partenaires aussi et qu'elles deviennent européennes à proprement parler.
Très bien. Bah écoutez, on regardera ces multiples signes dans les 6 mois qui viennent, en espérant qu'il n'y ait pas nécessairement une crise qui implique une intervention militaire européenne. Mais enfin, dans tous les cas, des crises, en fait, il y en a toujours, et ce sera intéressant de voir si l'UE a plus tendance à réagir comme UE sous cette présidence française du Conseil de l'Union européenne. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que tous les retours, remarques, commentaires, suggestions sont bienvenus, que ce soit par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, ou encore notes et commentaires sur les différents outils d'Apple Podcast et de SoundCloud. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.